France Culture.
Réplique à qui la faute ? Avec Chantal Delsol et Paul Gasnier. Avec la philosophe Chantal Delsol et le journaliste écrivain Paul Gasnier, nous allons aborder la question vertigineuse du mal et de la responsabilité individuelle. Mais cette question, nous ne la prendrons pas de plein fouet. Nous ne la traiterons pas directement, abstraitement, comme dans une épreuve d'agrégation. Grâce au livre de Paul Gasnier, La Collision, nous partirons d'un événement particulier, saisissant, terrible, effroyable. Que s'est-il passé le 6 juin 2012 à 17h13 rue Romarin à Lyon, Paul Gasnier?
Le 6 juin 2012 à 17h13 rue Romarin à Lyon, ma mère, 54 ans, circule à vélo pour se rendre à son centre de yoga qu'elle vient d'ouvrir 3 semaines plus tôt, et elle est violemment percutée par un jeune motard qui s'amuse à faire de la roue arrière en tournant dans le quartier, du rodeo urbain, comme on dit aujourd'hui.
Du wheeling, on dit aussi.
On dit aussi du wheeling, c'est le terme technique. Il la percute de plein fouet, elle décède 1 semaine plus tard, et c'est l'événement qui est à l'origine de ce livre, La Collision.
C'est l'événement qui est à l'origine de ce livre. Ce livre, vous avez commencé à l'écrire 10 ans après cet événement qui a bouleversé votre vie. Vous racontez d'ailleurs que vous étiez à Bombay à ce moment-là, que vous êtes rentré aussi vite que possible. Mais pourquoi ce délai et qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, Gasnier?
Ce qui a été le déclencheur de l'acte d'écriture, c'est la campagne présidentielle de 2022. J'étais journaliste pour Quotidien, je le suis toujours, et je suivais notamment la campagne d'Éric Zemmour, et j'avais assisté à l'un de ses meetings à Cannes, quelques semaines avant le premier tour, et j'avais été saisi par la brutalité de ce qu'il disait. C'était un discours qui parlait de laxisme judiciaire, et qui divaguait sur ce qu'il appelle les francocides, sur, en gros, les Arabes qui tuent des Français blancs quotidiennement, sur la nécessité pour les citoyens de s'armer pour répondre à la délinquance. Et ce meeting a fait naître de nouvelles réflexions chez moi, puisque je me suis senti concerné par ce qu'il disait. Une partie de moi était sensible à son discours, ou en tout cas le Paul que j'avais été 10 ans plus tôt aurait pu l'être. Et à la colère intime qui m'habitait, s'est substituée l'exaspération de voir des gens comme lui parler à ma place et me déposséder de mon deuil et vouloir lui donner une signification politique. Et c'est au lendemain de ce meeting, et plus généralement de cette campagne présidentielle qui était marquée par la surenchère sécuritaire et le populisme pénal, que j'ai voulu me réapproprier cette histoire en m'y plongeant et en écrivant ce livre.
Et donc, écrire ce livre, pour vous, c'était essayer de comprendre, plutôt même que de condamner tout de suite ou de monter sur les tours, et vous avez essayé de comprendre l'acte et celui qu'il avait commis, si j'ai bien compris, Paul Gasnier.
Oui, parce que j'ai vu ce que la colère donnait et sa traduction politique et électorale concrète, et j'ai vu que ça me faisait stagner psychiquement et que le sentiment très stérile de la colère me faisait vivre constamment dans le passé et sous l'emprise de cet événement. Et écrire sur la mort de ma mère et surtout sur les circonstances de sa mort et sur celui par qui le malheur est arrivé était une manière de prendre pouvoir sur cette collision, de la regarder dans les yeux et de la saisir par les cornes pour cesser d'être une créature gouvernée par l'événement. Donc voilà, je l'ai vraiment vécu comme une prise de pouvoir sur cet événement, et c'est passé par la compréhension du parcours délinquant de ce jeune, de ce qui avait armé son geste de rodeo urbain. Et je pense qu'il faut y voir là une déformation professionnelle de journaliste, c'est-à-dire que dans ce récit, il y a presque 2 narrateurs. Il y a un fils en deuil qui écrit sur la mère qu'il a perdue et qu'il adorait, et il y a aussi un journaliste qui s'intéresse à un fait divers qui est objectivement intéressant. Et comme la vie est toujours plus intéressante que douloureuse, c'est ce qui a guidé mon écriture.
Oui, alors justement, que pensez-vous, Chantal Delsol, de cette entreprise? Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Chantal Delsol.
Je veux d'abord vous féliciter pour votre livre, parce que je l'ai lu avec plaisir, il est bien écrit, intéressant. Je comprends très bien ce que vous dites, vous ne voulez pas qu'on parle à votre place, c'est très normal. Il faut savoir que si on laisse les autres être les seuls à parler d'un sujet, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc il faut parler, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une parole qui ne soit pas forcément celle des autres. Encore faut-il l'avoir, cette parole, parce que pendant très longtemps, on n'a pas voulu en parler, on a jugé qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il faut parler des problèmes, vous avez parfaitement raison. Alors, on pourra reparler après de la responsabilité collective, parce que je pense qu'il y a aussi une responsabilité collective, mais là, je vais parler que de la responsabilité individuelle. Ce qui m'intéressait, c'est à plusieurs reprises, vous décrivez ce garçon. Vous dites, il ne s'empêche jamais. Vous venez d'en parler à la Finkielkraut, ça m'a paru très important. Et à un autre moment, vous dites, il est dans l'anomie. La question, et puisque vous ne voulez pas qu'on parle à votre place, et vous avez raison, est de savoir pourquoi les prisons sont pleines de jeunes qu'on dit issus de l'immigration. Bon, voilà, pour essayer d'être le plus poli possible, parce que j'ai envie d'insulter personne, vraiment. La question est de savoir pourquoi. Quand vous dites « il ne s'empêche jamais », je pense que le problème vient quand même beaucoup de l'éducation. Tous ces jeunes ne sont pas plus délinquants que les autres, ni plus mauvais que les autres. Il n'y a pas plus de mal, entre guillemets, chez eux que chez d'autres qui sont d'une autre couleur ou d'une autre culture. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on les éduque pas à la liberté. Dans une démocratie, et ça va ensemble, on a un régime de liberté politique et on éduque les enfants à la liberté. Chez nous, c'est une constante depuis des siècles et des siècles. Pourquoi ? Parce que nous sommes issus d'une culture, bon, on pourrait s'étendre, mais je ne m'étends pas. Dans la culture de ce garçon en question et de ceux qui sont comme lui, on n'éduque pas les garçons à la liberté. Les filles, elles sont accablées d'obligations et d'interdictions, donc ça, il n'y a pas de problème pour elles. Mais les garçons, à partir du moment où ce sont des garçons, ils sont les rois de la piste, ils font tout ce qu'ils veulent et on attend qu'un état dictatorial vienne les empêcher. Parce qu'on a l'habitude de vivre dans des états dictatoriaux, où Boualem Sansal va en prison dès qu'il critique. Et donc, ils n'ont pas appris la liberté, tout simplement, donc ils font n'importe quoi.
Quand vous dites les garçons comme lui, qu'est-ce que vous
entendez par là ? Ben, des garçons issus de l'immigration. C'est pour ça qu'il y en a plein les prisons.
C'est il pas... est né en France.
Oui, mais bien sûr, mais il est éduqué comme ça. Il n'est pas éduqué à la liberté. Alors vous allez me dire... Pourquoi est-ce que dans les prisons, il n'y a pas à ce moment-là de Chinois qui, eux, vivent d'origine dans un régime dictatorial ?
Je n'ai pas de statistiques ethniques à disposition,
non, mais,
peut-être que vous en avez.
Non, mais bien sûr, parce que les statistiques sont toujours cachées. Parce que les Chinois ont une culture sans contenu, qui est une culture d'adaptation. Donc, ils s'adaptent très facilement, ils éduquent leurs enfants à la liberté parce qu'ils savent qu'il faut le faire.
Paul Gasnier.
Alors écoutez, j'ai pas la prétention d'avoir des réponses à ces questions. Sur la population carcérale et son origine ethnique, je suis bien incompétent pour vous répondre. Et quand vous dites les garçons comme lui, je vois pas trop à quoi vous faites référence, à part les enfants issus de l'immigration, c'est ça ?
Oui, si vous voulez, oui, disons comme ça. Je sais pas comment dire le plus poliment possible, parce que voilà, j'ai pas envie ni de discriminer, ni d'injurier, ni d'essentialiser, comme on dit maintenant, mais bon...
Absolument, et c'est toute la démarche de ce livre de refuser l'essentialisation. Je pense que ce jeune a eu un parcours délinquant qui a eu plusieurs facteurs. Il y a eu un échec scolaire qui est arrivé très jeune, à un âge déterminant à l'adolescence. Il y a eu évidemment la rencontre avec la drogue. Ce livre raconte aussi l'emprise de la drogue sur certains quartiers, qui est un phénomène dont on a tardé à mesurer l'ampleur. Et ça raconte aussi quelque chose de plus anthropologique sur la violence masculine, sur l'hubris des garçons. Et d'ailleurs, le rodeo urbain, je l'analyse comme ça dans le livre, pour moi, c'est un comportement très viriliste et c'est le véhicule de la masculinité contrariée. Donc on peut aussi voir ça comme un facteur déterminant dans son parcours délinquant, davantage que sa culture maghrébine ou son origine ethnique. Alors, je pense pas qu'il y a un génome particulièrement délinquant chez les Maghrébins.
J'ai pas dit qu'il y avait un génome, pas du tout.
Plus que chez les Chinois.
Mais pas du tout, je pense que c'est une histoire de culture. Oui. C'est pas des génomes, c'est de la culture.
Vous dites à un moment donné, en effet, Paul Gasnier, Saïd, puisque c'est son nom, ne s'empêchait jamais. Et j'en ai parlé avant l'émission, parce que j'étais d'autant plus frappé par votre expression qu'elle m'a rappelé le premier homme.
Bien sûr.
Un homme, ça s'empêche.
Mais c'était, il faut rappeler les circonstances, le contexte. Camus, enfin, Jacques Cormery, mais on sait que c'est Camus, c'est dans le premier homme, tombe un jour à Alger sur son ancien directeur d'école, monsieur Levesque. Et il lui raconte une anecdote extraordinaire. 1905, au Maroc. Ils combattent, lui et son père, dans les rangs de l'armée française. Une nuit, ils doivent relever une sentinelle et ils la découvrent, la tête renversée, bizarrement tournée vers la lune. Il avait été égorgé et dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier. Le père de Camus est hors de lui. Il avait dit, ceux qui ont fait ça n'étaient pas des hommes. Monsieur Levesque essaye de le calmer et il lui répond, pour eux c'était ainsi que devaient agir les hommes, qu'on était chez eux et qu'ils usaient de tous les moyens. Autrement dit, il veut réintégrer la violence dont il venait d'être le témoin dans le cerf de l'humanité en lui conférant le double sceau de la tradition et de la résistance. Et le père de Camus ne veut absolument rien entendre. Ils ont tort. Un homme ne fait pas ça. Et c'est là qu'il dit, un homme, ça s'empêche. Voilà ce qu'est un homme ou sinon. Un homme, ça s'empêche. La mesure, la limite. Et Camus a été inspiré par cette phrase tout au long de son œuvre, notamment dans L'homme révolté. Mais un homme, ça s'empêche. C'est très important, je vous interroge, Paul Gastier, parce que c'est une manière de dire, ben là, je ne veux plus comprendre, je le condamne, je n'entre pas dans ce cycle-là de la compréhension, c'est trop horrible. Et peu importe la culture, peu importe même le fait qu'ils doivent résister à l'armée française, etc., un homme, ça s'empêche. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça, la conclusion qu'il faut tirer de cette collision, de ce qui n'est pas un accident, mais non seulement un homicide involontaire, mais un homicide routier.
Oui, un homme, ça alors, s'empêche. Et d'ailleurs, tout le parcours délinquant de Saïd raconte ça. Toutes les fois où il a eu l'occasion de se reprendre, il ne l'a jamais fait. Il est toujours retombé dans la délinquance. Il a toujours eu un pied pris dans les raies de la justice ou de ses mauvaises habitudes. Et à chaque fois qu'il a eu l'occasion de retrouver une formation, de retrouver un travail ou de se remettre sur les rails, comme si c'était plus fort que lui, comme s'il était agi par des passions sous-jacentes qui avaient du pouvoir sur son libre arbitre, et ben il retombait à chaque fois dans la délinquance. Et effectivement, c'est un garçon qui s'empêche jamais, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que dire ça, c'est donner toute la responsabilité de sa vie sur ses frêles épaules. Or, il y a une société derrière, il y a un milieu social, il y a un milieu criminogène dans lequel il évoluait, et dire qu'il est responsable de ce qu'il a fait, ça ne nous exonère pas de réfléchir aux déterminismes sociaux qui ont aussi agi, pas uniquement, mais qui ont aussi agi en lui.
Ah oui, moi je pense pas du tout qu'il ait été entièrement responsable. Au contraire, je pense qu'il y a une responsabilité pénale, pour reprendre les quatre responsabilités de Jaspers. Mais il n'y a pas de responsabilité morale. Il n'a pas été éduqué à s'empêcher. Je vois pas comment il pourrait le faire. Ça prend, surtout pour les garçons, qui ont plus de force. Si un garçon n'apprend pas à s'empêcher dans son enfance, il ne s'empêchera jamais. Il attendra que l'État le tacle. Donc je ne dis pas du tout qu'il est responsable de tout. Loin de là. Je dis que c'est un problème de culture. Alors après, il y a la responsabilité collective. On va peut-être en parler. La responsabilité française, j'entends.
C'est quoi la responsabilité française pour vous ?
Ah ben, si vous voulez, moi je crois à la démocratie des morts. Je pense que nos assemblées sont composées aussi de nos ancêtres et puis de nos descendants. Donc je pense que nous sommes responsables de ce qu'ont fait nos pères qui ont colonisé, qui ont fait venir des millions de gens du Maghreb pour payer moins cher les salaires dans les années Pompidou. Je pense qu'on est responsable de tout ça. Et donc maintenant, il faut qu'on en paye les conséquences. Il faut qu'on aménage les conséquences. Et ça, je crois vraiment qu'il y a quelque chose comme ça.
Bah, les parents de Saïd ont toujours respecté la loi, donc on n'est pas dans
Mais j'ai pas dit le contraire, bien sûr.
Je précise.
Oui. Ils ont respecté la loi, mais ont-ils su ou pu éduquer Saïd, Paul Gasnier?
Alors effectivement, c'est un des angles morts de mon livre, parce que j'ai pas assez d'éléments sur la manière dont il a été éduqué par ses parents, mais manifestement oui, il y a dû avoir un raté, puisque ses deux parents travaillaient énormément, son père était d'abord militaire, ensuite a travaillé dans les travaux publics, sa mère était femme de ménage, puis assistante maternelle, et je pense qu'ils n'ont pas vu la dérive de leurs deux garçons. En fait, c'est étonnant, c'est une famille de quatre enfants, deux garçons, deux filles, où les deux filles ont mené des vies parfaitement stables, elles sont aujourd'hui mariées, ont des métiers, etc., et la violence
c'est
bien des garçons.
C'est Dati, Rachida Dati, dont les deux frères étaient en prison. Et elle, c'est la réussite que l'on sait, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Enfin, c'est classique.
Et les deux garçons sont tombés dans la drogue et la délinquance à un âge très jeune et n'ont jamais su s'en sortir. Et le grand frère l'a payé de sa vie.
Justement, d'ailleurs, vous rencontrez la sœur de Saïd, Afsia. Personnage, disons, ambivalent. En tout cas, un moment, elle vous dit, mettant les points sur les i, vous savez, moi, je suis contre les voyous. Avec mes enfants, je fais l'inverse de ce que j'ai vu sur les pentes. Les pentes, c'est le quartier où...
Les pentes de la Croix-Rousse.
Les pentes de la Croix-Rousse où habitait Saïd. Je veux qu'ils aient une éducation parfaite. Quand j'entends wesh wesh dans la rue, ça me met hors de moi. Donc, il y avait une voie possible, et c'est Afsia qui l'a prise, et ce n'est pas Saïd.
Oui, mais les...
Pourquoi ? Parce que c'était un garçon ?
Parce que les capacités individuelles et l'intelligence ne sont pas distribuées équitablement dans une famille. Il y a des individus qui ont une volonté personnelle de s'extraire de leur déterminisme qui est plus forte que d'autres. Et cette volonté, manifestement, Saïd en était cruellement dépourvu. En tout cas, plus dépourvu que sa sœur. Et puis, oui, il y a évidemment un sujet sur la manière dont on éduque les garçons et les filles. Je pense que les filles étaient beaucoup plus contrôlées dans cette famille. Il y avait un contrôle social qui était beaucoup plus fort, là où les garçons, on les laissait rentrer tard et faire ce qu'ils voulaient dans la rue.
Mais ça, c'est ce que vous dites.
Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis.
Donc, effectivement, donc, il y aurait une éducation différente. Et les garçons, on les laisse faire, c'est ça.
Oui,
il y a un peu... Mais ça, c'est une question de culture, non, Paul Gasnier. Parce que c'est pas vrai en France, c'est pas vrai en Europe.
Je suis pas si sûr, hein.
Les garçons, on leur apprend aussi les limites, même si ce n'est pas forcément toutes les mêmes limites que les filles, mais l'éducation aux limites, l'éducation à l'empêchement, elle existe pour les deux sexes. Peut-être devrais-je dire aujourd'hui les deux genres.
Le problème de cette famille, c'est que l'aîné a pris son petit frère sous son aile et a été chargé de l'éduquer. Le problème de l'aîné, c'est qu'il n'était pas très fréquentable, puisque c'était un trafiquant de drogue. Et Saïd a grandi dans l'ombre de ce grand frère qu'il admirait, dont il n'a jamais eu l'envergure et le charisme, et dont il essayait de reproduire maladroitement le comportement. En fait, on a l'impression que chez Saïd, on est face à un petit garçon qui essaye d'imiter les manières des grands. Et quand le grand qu'on a en modèle, ce n'est pas son père qui travaille et qui respecte la loi, mais c'est son grand frère qui est un délinquant, et bien tout est foutu.
Tout est foutu, oui. Mais alors, justement, venons-en maintenant à la question un peu plus générale de la responsabilité. Parce que vous dites, Paul Gasnier, la violence qui a frappé ma famille possède une généalogie. Vous cherchez la généalogie. Ça m'a beaucoup intéressé. Il ne s'empêchait jamais. Ça m'a fait penser à Camus. La généalogie, ça m'a fait penser à Rousseau. Rousseau, j'ai montré que tous les vices qu'on impute au cœur humain ne lui sont point naturels. J'ai dit la manière dont ils naissent. J'en ai, pour ainsi dire, montré la généalogie. Et c'est tout le travail de Rousseau. Tout ce qu'il apporte, c'est-à-dire « je hais la servitude » comme la source de tous les maux du genre humain, le mal ne situe plus chez l'individu, mais dans la société, ou plus précisément dans l'inégalité. Et donc, la responsabilité est à chercher dans la société. Il n'y a pas de péché originel, il se défait de ce concept, et il le remplace, en fait, par le crime originel. Le crime de la domination...
Celui qui est le premier.
De la propriété, etc. Et donc, il faut renvoyer la responsabilité à la société elle-même. Est-ce un progrès dans la compréhension des hommes, Chantal Delsol, de raisonner ainsi ?
Qu'on remplace le péché originel par l'histoire du premier qui a planté un piquet, pour moi, c'est pas tellement différent. Simplement, chez Rousseau, c'est très utopique et l'histoire du péché originel, c'est très, disons, mythique. Mais des deux côtés, ça me paraît être un peu pareil. Cela dit, j'ai pas du tout l'impression que ce garçon en question, dont vous essayez d'analyser les motivations, soit dans le mal, il est dans la négligence, il a certainement jamais voulu tuer quelqu'un. D'ailleurs, vous le dites bien, et on peut l'entendre. Le garçon qui fait du rodéo n'a pas du tout voulu tuer quelqu'un. Simplement, il est négligent, il fait attention à rien, il se fiche de tout, il se fiche des autres, il est narcissique. Bon, il est comme quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est tout. Moi, je vois même pas la question du mal là-dedans. Je ne sais pas où vous la trouvez.
Ben quand même.
Dans toutes les circonstances qu'il a réunies pour tuer. Et c'est en ça qu'on peut s'interroger sur le caractère involontaire de cet homicide.
Je veux dire, quand on est négligent, effectivement, on fait le mal sans le vouloir et à la limite sans le savoir.
Là, c'est presque à front renversé, si j'ose dire, parce que vous traitez quand même Paul Gasnier tout en essayant de le comprendre pour vous éloigner justement des simplifications zemmouriennes ou bolloriennes, je ne sais pas comment dire.
Ou valsiennes, comprendre, ce n'est pas excuser.
Oui, mais en même temps, vous dites ceci, est-il suffisant de ne pas avoir souhaité une conséquence pour la qualifier d'involontaire. quel poids pèse l'intention initiale lorsque l'on prend la décision de réunir toutes les conditions qui risquent de tuer? Suffit-il de ne pas avoir voulu tuer pour atténuer sa responsabilité? Donc vous allez très loin.
Oui, c'est des débats qui ont eu lieu pendant le procès, qui s'est tenu un an après la collision. Tous les débats tournaient autour de ça, c'est-à-dire que certes, il n'a jamais voulu tuer, mais allons plus loin, il a réuni toutes les circonstances qui ont permis de tuer, c'est-à-dire qu'il a décidé de conduire cette moto qu'il ne maîtrisait pas, il n'avait pas le permis de conduire, il a décidé de fumer un joint avant, il a décidé de rouler à 80 km/h dans une petite rue étroite où il y avait beaucoup de cyclistes et beaucoup de passants. Voilà, jusqu'où son acte était-il involontaire?
Oui, d'ailleurs, vous dites que la qualification d'homicide involontaire a été changée sous l'effet de l'histoire...
De Yannick Hélénaud.
De Yannick
Hélénaud.
D'Antoine Hélénaud,
le fils de Yannick Hélénaud.
Ce fils était mort, et maintenant, on parle d'homicide routier. Donc, à un moment donné, vous dites que c'est un accident. Non, c'est vraiment un homicide routier, quand même.
Oui, ce terme n'existait pas à l'époque. On parlait d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Et aujourd'hui, le délit a changé de nom. C'est un homicide routier. Alors, c'est seulement un changement sémantique qui ne s'est pas accompagné d'un changement de quantum de peine. Et c'est parce que plusieurs familles de victimes considéraient que le terme involontaire était une violence supplémentaire dont ils voulaient se débarrasser. Donc aujourd'hui, on parle d'homicide routier, ce qui est plutôt bienvenu, je trouve. Même si ça ne change pas grand-chose, le fait de parler d'homicide routier, ça permet de souligner la responsabilité de son auteur. Ouais.
Il a été condamné à quelle peine exactement? Pour ce qu'on n'appelait pas encore un homicide routier.
Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes. Il avait déjà fait un an et demi de préventive avant le procès, donc il a comparu détenu. Et après le procès, il est retourné en prison pour un an et demi.
Pour un an et demi.
Et aujourd'hui, le quantum des peines s'est considérablement durci, puisqu'une nouvelle loi sur le rôle de l'urbain a été créée en 2018. Donc aujourd'hui, il prendrait beaucoup plus.
Est-ce que cette peine vous paraît normale, Chantal Delsol?
Je suis incapable de dire si la peine est normale, mais je trouve simplement que la peine n'est pas excessive et ça me paraît normal, étant donné que le garçon, effectivement, pendant le procès, on a dû en parler, ce qui est tout à fait, savoir quelle était sa véritable responsabilité. Moi, je trouve qu'il paraît complètement irresponsable. Enfin, il ne sait pas comment on fait pour juger les conséquences à l'avance. Il a probablement été éduqué comme un roi de la piste. Tu es un garçon, donc tu es le meilleur, tu es forcément le meilleur, etc. Donc, il se croit tout permis, il se pense immortel. On regarde quand même toutes ces choses-là. On regarde ce que les gens ont dans la tête quand ils ont fait des négligences qui ont amené à un crime. Ce sont les négligences, là, c'est pas ce qu'il voulait faire. Donc, en plus, il a l'air un peu ballot, d'après ce que vous dites. Bon, franchement, il y a une irresponsabilité. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après,
oui, mais une irresponsabilité, ça se traduit quand même.
Alors, il y a une responsabilité pénale, c'est pour ça qu'il a 3 ans, qui me paraît pas colossal pour avoir quand même tué quelqu'un.
Ah, quand même. Tout.
Je suis incapable de dire si c'est.
Moi aussi, je suis incapable. Je dis ce qui me paraît, parce que ce qui me paraît,
c'est. D'ailleurs,
ça on n'a
pas fait appel, et notre avocat considérait que ça respectait le.
À votre place, je crois que j'aurais pas fait appel, ouais.
Alors moi, je vais vous décevoir, ou peut-être vous confirmer dans l'opinion que vous avez avec moi, Paul Gasnier. Personnellement, j'aurais fait appel. Je trouve la peine insuffisamment sévère et donc insuffisamment éducative. Mais je fournirai à l'appui de cette argumentation qui peut paraître antipathique la réflexion de Simone Veil. Simone Veil, l'auteur de L'Enracinement. C'est pas tout à fait... une philosophe Bolloré, vous en conviendrez. Eh bien, c'est très intéressant. Elle dit, et j'aimerais avoir votre réaction à tous deux, « Le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. Par le crime, un homme se met lui-même hors du réseau d'obligations éternelles qui lie chaque être humain à tous les autres. Il ne peut être réintégré que par le châtiment, pleinement s'il y a consentement de sa part, sinon imparfaitement. De même que la seule manière de témoigner du respect à celui qui souffre de la faim est de lui donner à manger, de même le seul moyen de témoigner du respect à celui qui s'est mis hors la loi est de le réintégrer dans la loi en le soumettant au châtiment qu'elle prescrit. Et est-ce que, en plus, ce châtiment n'aurait pas eu un châtiment digne de ce nom? Je dis pas, n'aurait pas eu un effet salutaire sur Saïd, Paul Gasnier, et ensuite Chantal Delsol.
Est-ce qu'on peut toujours considérer qu'une peine de prison est éducative quand on est dans une situation où on a une surpopulation carcérale de 135%, on est un des plus mauvais élèves de l'Europe? Je trouve que ça correspond à une vision un petit peu enchantée de la peine de prison. D'ailleurs, on vient de panthéoniser Robert Badinter, qui lui a toujours fait de l'amélioration des conditions des détenus un grand combat de sa vie, et qui a dit que la prison pervertissait. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les prisons sont dans un tel état qu'elles produisent de la récidive. Et c'est pas avoir une vision gauchiste du monde de dire ça, c'est tous les spécialistes du sujet qui nous alarment là-dessus. Donc est-ce que la peine est éducative? J'ai bien du mal à l'affirmer aujourd'hui.
Mais diriez-vous, Chantal Delsol, là vous avez tout à fait raison, Paul Gasnier, de souligner l'état lamentable des prisons françaises, mais diriez-vous, comme Simone Veil, que le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine?
Effectivement, il faut qu'il y ait un châtiment, parce que là il y a une véritable responsabilité pénale, même si à mon avis elle n'est pas morale, mais elle est pénale. Il faut qu'il y ait un châtiment. Là, il y a eu un châtiment. Cela dit, moi, je crois absolument pas que la prison peut être éducatrice. Les seuls éducateurs, c'est la famille, éventuellement un peu l'école, parce que c'est pas seulement l'instruction, l'école. Ça marche un peu aussi dans l'éducation. Mais sinon, je crois pas du tout que la prison peut être éducatrice. Cela dit, quand vous parlez des mauvaises conditions en prison, je suis d'accord. On a quand même des terroristes qui ont des ordinateurs, qui font un peu ce qu'ils veulent. Donc, je veux dire.
Là, franchement, je vais réagir.
Ah bon?
Parce que le problème de Salah Abdeslam, c'est pas qu'il avait un ordinateur, c'est qu'on a fourni des clés USB. Mais il est condamné à la réclusion à vie. Un ordinateur, c'est pas normalement l'ouverture sur Internet. C'est peut-être aussi la possibilité pour lui d'apprendre. On peut pas le mettre en prison et le priver de tout. On l'avait à ce point mis à l'isolement qu'il avait des crises de démence. Donc l'ordinateur en lui-même, me semble-t-il, n'est pas un scandale.
Mais alors comment vous expliquez que depuis la prison, il y a quand même un certain nombre de gens qui commandent des actions délictueuses, pour ne dire que ça. Enfin, ça prouve quand même que c'est pas uniquement des gens entassés dans une cellule sans rien du tout. Enfin, je veux dire, ils ont plusieurs téléphones, apparemment, d'après ce qu'on dit.
Alors, il y a c'est peut-être bien la preuve que la prison ne remplit pas son office.
Il y a peut-être les deux. Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais je pense. Et de toute façon, c'est pas éducatif. Ça, je suis persuadé. Donc, un type jeune, il faut éviter ça le plus possible.
Et d'un autre côté, je pense que le châtiment est un besoin vital de l'âme humaine. Mais revenons à la sœur Afsia. Elle dit cela, la délinquance, non. Et je la condamne. Mais d'un autre côté, Saïd est jugé pour une autre affaire. Vous voulez aller au procès pour le voir. Ça vous intéresse pour votre livre et aussi
pour l'entendre, pour savoir ce qu'il a à dire sur sa vie aujourd'hui.
Et pour, sinon guérir de votre malheur, mais comprendre mieux. Parce que le malheur, et c'est la beauté du livre, est toujours là. Mais justement, Afsia vous demande de ne pas assister à l'audience en disant « c'est une chose intime ». Comment vous avez pris ce propos? Moi, je le lis, il me révolte. Je dis « c'est pas possible, enfin, c'est pas intime puisque c'est la justice ». Et pourquoi avez-vous accepté, Paul Gasnier?
Parce que j'ai senti que j'étais arrivé à la limite de mon enquête. C'est-à-dire que je m'étais glissé anonymement dans cette salle d'audience. J'avais un masque FFP2 sur le visage et elle m'a quand même reconnu. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit « Bon, écoutez, vous enquêtez sur ma famille, vous enquêtez sur mon petit frère, c'est votre droit. Mais là, je vous demande humainement, tendrement, doucement, de quitter cette salle d'audience parce que mon frère ne va pas bien, on va parler de notre famille, on va révéler des choses intimes et on ne pourra pas s'exprimer aussi librement qu'on aimerait si on sait que vous êtes là. » Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de partir.
Pourquoi avez-vous accepté?
J'ai protesté au début, je lui ai dit que j'avais besoin d'être ici parce que je voulais entendre Saïd, j'avais besoin d'entendre le son de sa voix, je voulais savoir ce qu'il allait dire, je voulais entendre les questions que le juge allait lui poser sur son parcours ces dernières années. Et son refus à elle était tellement définitif, était si ferme, que c'est par souci de préserver le lien qu'on avait et par respect pour elle, surtout, que je suis parti. Je voulais pas entrer dans un bras de fer avec sa sœur qui m'avait tant renseigné sur le parcours de Saïd et sur sa famille, que je suis parti.
Donc vous ne savez pas pourquoi il était jugé, ni à quelle peine, éventuellement, il a été condamné?
Non, et d'ailleurs, je me demande si j'aurais été plus avancé en sortant de cette salle d'audience, si j'étais resté jusqu'au bout. En fait, on arrive presque à la conclusion et à l'échec de cette enquête. C'est-à-dire que quand on décide de comprendre complètement un individu, peut-être que c'est une impasse et qu'on n'y arrivera jamais et que c'est au fond de soi-même qu'il faut sonder pour vivre en harmonie avec le monde extérieur et peut-être pas dans cette démarche de compréhension totale d'un individu. Et je pense que j'aurais pu passer 10 ans, 20 ans à enquêter sur ce Saïd, à assister à toutes les audiences où il irait, et peut-être que je serais toujours au même stade qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne comprend jamais complètement un individu.
Et vous, Chantal Delsol?
Moi, je suis pas comme vous, je comprends très bien à la fois la réaction de cette femme qui a l'air assez formidable, parce que je pense qu'elle a dû peut-être avoir peur de l'enquête. Vous savez, les livres, c'est meurtrier.
Absolument.
Hein. Je viens de finir Le Colcos d'Emmanuel Carrère et je trouve que cette pauvre Hélène n'en sort pas grandie. Je trouve ça, c'est un peu obscène, un livre.
Il est
parfois,
très violent de voir une tierce personne
donc,
écrire sur
je comprends très bien sa réaction et je comprends très bien la vôtre aussi. Je pense que j'aurais fait pareil à votre place.
Ah bon?
Oui.
Ah, moi, je ne sais pas si j'aurais fait pareil, mais.
Il y a l'intuition du moment.
Je suis très énervé, par Afsir,
ah oui.
Si vous voulez.
Ah oui, ah oui, très, ça, très c'est énervé. Marrant, non, au contraire.
Oui, parce que tout d'un coup, c'est le cercle familial qui l'emporte sur toute autre considération, alors que elle affirmait son engagement pour une morale universelle. Et ce repli, là, sur le cercle familial, ça entre absolument en contradiction avec ce qu'elle vous avait dit. Et aurais-je réagi comme vous? Ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Peut-être le désir de comprendre l'aurait emporté, je serais resté, mais bon, ça c'est difficile à dire, mais elle est compliquée, cette...
Là, elle m'a fait comprendre que en étant présent et en insistant pour rester dans cette salle d'audience, je changeais de statut, je n'étais plus un fils en deuil qui cherchait des réponses, j'étais un rapace, presque un paparazzi.
Ouais, je comprends.
Et c'est pas des termes qu'elle a employés, mais la manière dont elle me parlait et elle me regardait, c'est ainsi que je l'ai compris, et c'est pour ça que je suis parti.
Et donc, j'ajoute, enfin, c'est une autre question, en épigraphe à votre livre, Paul Gasnier, vous citez une phrase de Virginie Despentes. Cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille.
Ça résume bien cette rentrée littéraire.
Pas du tout.
D'accord.
Pourquoi?
Parce qu'il y a énormément de livres qui sortent sur la mère et sur les familles. C'est une phrase que j'avais lue dans Cher connard de Virginie Despentes qui m'avait beaucoup fait sourire à l'époque et je me l'étais noté. Parce que c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était des bourgeois, des privilégiés qui écrivaient la grande épopée de leur famille. Et en fait, c'est un geste que j'ai reproduit dans ce livre. Et c'était aussi une manière de clin d'œil en Virginie Despentes qui tire son nom de plume Despentes de la Croix-Rousse.
Oui, mais le prix Goncourt, ça ne vous a pas échappé, a été attribué à Laurent Meuvignier. C'est une histoire de famille. Cet homme, son père, était éboueur et sa femme faisait des ménages. C'est pas du tout une histoire de bourge.
Oui, bien sûr.
C'est pas du tout une histoire de bourge. Donc, mais surtout, Virginie Despentes, quand même. Ça en revient à notre sujet. Vous savez que elle a écrit sur Charlie.
Oui.
Sur l'attentat de Charlie. Elle a pleuré les morts de Charlie. Mais dans le même élan de compassion, elle a pardonné aux tueurs en leur prêtant ces paroles désespérées. Je vais faire irruption dans vos putains de réalités que je hais, parce que non seulement elles m'excluent, mais en plus elles me mettent en tôle et condamnent tous les miens au déshonneur d'une précarité de plomb. Donc elle va très loin dans la compréhension. Trop loin peut-être, non, Paul Gasnier?
Oui, surtout qu'elle l'a écrit très très vite après le massacre de Charlie Hebdo. C'est pour ça que c'est toujours intelligent d'attendre 10 ans avant d'écrire.
Oui, c'est toujours intelligent d'attendre 10 ans avant d'écrire. Et là, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, oui, alors, là maintenant, je voudrais que nous parlions du juge. Donc, de la justice en général. Vous aimez pas ce que raconte le président de Reconquête sur le laxisme judiciaire. Et là, on va peut-être en parler un peu à propos de Philippe Moreau. Vous allez le voir, ce magistrat.
C'est lui qui présidait l'audience, voilà, à l'issue de laquelle Saïd a été condamné.
Voilà. Il a un casque et une moto, la même, en plus. Et il est tout content de sa moto. Il dit ceci. Mon professeur disait, la procédure pénale, c'est les mains que la société s'attache dans le dos pour ne pas écraser l'individu. Quand je juge, je n'oublie jamais cette phrase. Une phrase qu'il a toujours en tête quand il se retrouve face à des gens écrabouillés par la vie et les mauvais choix. Ne pas aller trop loin, il dit écrabouillé par les mauvais choix, c'est très intéressant, parce que le choix, c'est la responsabilité. On peut pas être écrabouillé par son choix, on peut pas être la victime de son choix. Là, il y a quand même un retournement qui donne mal à la tête, non, Paul Gasnier?
Lui récuse la notion de libre arbitre. Et d'ailleurs, il m'a dit quand il m'a reçu, vous vous intéressez à Saïd, mais vous avez tort. Le quartier des pentes de la Croix-Rousse renseigne davantage sur la collision que l'auteur lui-même. Et lui ne croit pas du tout au libre arbitre, il ne croit pas que l'homme est un empire dans un empire. Et il m'explique que les conditions sociales et les différents manquements des services publics, chacun à son échelon, ont contribué à orienter ce jeune dans le décor. Voilà, c'est tout ce qu'il dit.
Vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas du tout.
Chantal Delsol, alors développez.
Pour moi, c'est typique. C'est effectivement typique d'une partie de la justice française. Il y a une partie que je ne peux pas évaluer, évidemment. Je peux pas comptabiliser. Cette manière de déresponsabiliser les gens, pour moi, c'est une manière d'essayer de sortir.
Il ne déresponsabilise personne.
Ah bah si, parce qu'il responsabilise le milieu dans lequel il était. Pauvre petit, il a pas de papa, il a pas de maman, il vit dans un milieu pauvre.
Absolument pas. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il reconnaît la responsabilité de Saïd.
Ah bah vous venez de.
En reconnaissant le poids des déterminismes.
Ah
c'est
non.
C'est pas contradictoire.
Bien sûr, on peut reconnaître le poids des déterminismes, mais quand il y a plus que des déterminismes, ça va pas du tout. Et là, c'est un peu ça. Alain Finkielkraut a parlé de Rousseau tout à l'heure. Ça vient de là. On peut pas réduire une personne à ses déterminismes. Il a sa responsabilité, il a son libre arbitre, et c'est quand même lui qui choisit. Alors évidemment, sa responsabilité peut être très limitée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que la responsabilité de votre meurtrier est très limitée. Enfin, j'ai l'impression que j'ai eu en lisant votre livre.
Ce que le magistrat juge, c'est la volonté personnelle de s'extraire des déterminismes. Et cette volonté personnelle, Saïd ne l'avait pas. Et c'est en ça qu'il est responsable.
Oui. Oui, mais quand même, je répète ce qu'en effet dit Philippe Moreau, le décor des pentes de la Croix-Rousse renseigne plus sur la collision que la roue arrière en elle-même. C'est une drôle de phrase,
ouais,
quand
oui,
même.
C'est vraiment bizarre.
C'est quand même l'absorption de l'événement dans le contexte.
Le milieu était pauvre, il n'avait pas de papa, pas de maman, parce que c'est souvent ça, là, c'est pas le cas. Mais vous voyez, ce genre de choses, finalement, c'est pas de sa faute, non.
Ça... Il dit pas que c'est pas de sa faute, il dit intéressez-vous au milieu criminogène dans lequel il évoluait, dans l'imaginaire de la drogue dans lequel il baignait,
oui,
qui a quand même
sûr.
Une grande part de responsabilité, dans l'admiration qu'il avait pour son frère qui organisait des go-fasts depuis le Maroc et qui vivait de combines et de trafic et de règlement de compte. Voilà, s'intéresser à ça, c'est pas exonérer Saïd de sa responsabilité individuelle.
Oui, c'est normal de le faire. Je pense que tous les juges le font, heureusement, sinon c'est pas des vrais juges. Mais de là à réduire le cas à cela, ce que vous êtes en train de lire, ça va pas. Il y a quand même une manière d'excuser en permanence, en mettant en toile de fond les circonstances, etc. C'est pas.
C'est lui qui l'a condamné à de la prison ferme.
Oui,
oui, il a singularisé son cas.
Heureusement, quand même.
Pas beaucoup. Et moi, je connais un magistrat, que je ne nommerai pas ici, qui a été indigné par les propos de ce juge. Il s'est dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on rend la justice, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ça peut renforcer l'idée qui vous paraît très dangereuse, Paul Gasnier, en effet, d'un laxisme judiciaire. Puis avec la moto et tout ça, il y a une manière de s'identifier presque à cet homme et de le présenter comme la victime de ses propres actes. Non, Paul Gasnier.
Il est aussi cycliste.
C'est vrai, il dit qu'il est cycliste.
Il est aussi père de famille, il est mari, il a le même âge que ma mère. Donc ce n'est pas seulement un motard qui a jugé un autre motard.
Ah oui,
c'est pas aussi
sûr,
simple que ça.
Bien sûr.
Alors, il y a aussi quelque chose que vous dites dans le livre et dans les entretiens que vous avez donnés qui est absolument déchirant sur vos parents et leur façon de penser et de sentir. Vous dites... Paul Gasnier, mon éveil politique, c'était 2007. Mes parents étaient viscéralement anti-sarkozystes. Ils disaient, mais tu te rends compte, il n'arrête pas de parler des cités. Il a dit le mot racaille, c'est vraiment la lupinisation des esprits. Pour mes parents, commentez-vous, se préoccuper de la délinquance ou de l'insécurité, c'était un truc de facho ou de con. Et là, un événement venait contredire ces opinions devenues miennes. J'ai forcément été déboussolé politiquement parce que ça venait contredire leur éducation. Et vous ajoutez, après l'accident, toutes les valeurs de gauche que m'avaient transmises mes parents, leurs idéaux, s'étaient fracassées sur la brutalité du réel. Et se sont-elles reconstituées, ces valeurs ? Paul Gasnier.
Oui, effectivement. Et le titre de Collision fait référence à ça. C'est aussi la collision entre mes idéaux de jeunesse et la brutalité du réel qui semblait, du moins à première vue, les contredire. C'est vrai que moi, mon éveil politique, c'était l'élection de Sarkozy, qui était déjà une campagne vraiment très marquée par les sujets de sécurité et de délinquance. Et à l'époque, on n'aimait pas parler de ces sujets-là. On considérait que c'était le comble de la vulgarité qu'un candidat utilise le mot racaille. Et mes parents s'en indignaient, à juste titre, je pense. Et là, je vivais quelque chose qui semblait en 2012, contredire complètement ce que j'avais reçu comme valeur en termes d'éducation. C'est-à-dire que je découvrais que, oui, la délinquance existait bien, elle tuait, il y avait des voyous qui se comportaient n'importe comment, et il y en avait un qui avait tué ma mère. Et nécessairement, ça a créé un déboussolement politique, et je suis passé par plusieurs phases de colère. J'en ai un peu voulu à mes parents aussi, dans l'immédiat après la collision, et heureusement, je n'ai jamais sombré idéologiquement, parce que j'ai été quand même bien élevé par ma mère, et j'avais l'impression qu'elle me... Elle était là à côté de moi et qu'elle me reprenait à chaque fois que je me sentais tenté par la dérive de mes passions tristes. Mais évidemment que ça a été d'autant plus brutal que j'ai eu une éducation très préservée. Et je pense qu'au fond, je ne me suis jamais remis de mon éducation heureuse. Et
oui, d'accord.
C'est pour ça que c'était d'autant plus violent, cette collision.
Mais vous parlez aussi d'un certain angélisme de la gauche sur ces questions-là, le refus de les traiter. Les faits divers ne sont jamais des faits de société. Il ne faut pas trop en parler. Alors là, la question que je la pose à tous les deux... Comment traiter ce genre d'événement? Il y a eu la collision, il y a eu tout récemment Matisse. J'ai pensé à l'histoire de Matisse, puisque je lisais votre livre au même moment. Vous savez, ce jeune homme d'origine haïtienne, adopté par ses parents, qui a été percuté et tué par un automobiliste...
Qui a fait un refus d'obtempérer.
Qui avait fait un refus d'obtempérer et qui est tout sous l'empire de protoxyde d'azote, le gaz hilarant, et qui était un récidiviste. Alors voilà, ce genre d'événement se multiplie. Est-ce qu'il faut comprendre celui qui a tué Matisse aussi, et jusqu'à quel point, voilà toutes mes questions, et comment politiquement faire face? C'est-à-dire, on ne veut pas l'angélisme, on ne veut pas la récupération par la droite et l'extrême droite, alors on fait quoi, Chantal Delsol?
On commence par accepter la réalité, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça d'ailleurs, au tout début, vous disiez « je veux pas qu'on pense à ma place ». Vous êtes en train de vous rendre compte que si vous pensez pas à tout ça, quelqu'un y pensera à votre place. Donc effectivement, on est tombé dans l'angélisme à tous les niveaux. Au niveau collectif, on est tombé dans l'angélisme en prétendant qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. On est en train de se rendre compte que c'est pas comme ça que ça marche, que la vie internationale n'est pas une promenade de santé et une certaine partie de la population est en train de se rendre compte que les voyous, ça existe, voire même les racailles, en mettant ça entre guillemets, ça existe. Et donc, comment on peut répondre à ce problème? C'est des problèmes tragiques, en fait. Hein. C'est des problèmes tragiques parce qu'il y a, vous avez deux valeurs, j'aime pas beaucoup le mot valeur, mais disons deux principes à la fois essentiels et affamés. L'accueil des étrangers d'une part et la défense de l'identité d'autre part qui sont en train de se... Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Il faut être à la fois très lucide d'un côté et très généreux de l'autre. Et il faut monter des deux côtés en force, comme quand vous avez un enfant qui est semi-délinquant et qui a besoin d'amour. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez visiter sa chambre, ce que vous faites jamais d'habitude, pour voir s'il n'y a pas de la drogue, et en même temps, vous allez voir ses matchs de foot, ce que vous faites jamais d'habitude pour lui montrer que vous l'aimez. C'est-à-dire il faut monter en force dans les deux côtés de la polarité, je pense. Et maintenant, c'est pas une solution. Il n'y a pas de solution à ce genre de problème. C'est qu'une réponse. Il y a des réponses.
Et vous, l'angélisme a été fracassé par l'événement. Vous êtes un responsable politique. Vous faites quoi? Vous réagissez comment?
Je suis incapable de répondre à votre question. Je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions clés en main, et sinon je ferai un autre métier. Beaucoup de gens me demandent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire contre les rodeux urbains? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai l'intuition que même si vous mettez l'extrême droite au pouvoir pendant 50 ans, il y aura toujours des gens qui rouleront n'importe comment et qui seront récidivistes. Donc, et la réponse à la délinquance n'est pas toujours uniquement sécuritaire. Répressive. Et répressive. On le voit bien avec le trafic de drogue. La loi se durcit sans arrêt, presque d'année en année depuis 30 ans, et on n'arrive toujours pas à régler le problème. Et peut-être qu'il faut aller chercher du côté, encore une fois, vous allez hurler, mais du milieu social, et pour agir sur le milieu afin de réorienter les individus, puisque le tout sécuritaire ne fonctionne pas, de fait. Mais je n'ai pas de solution.
Mais pour agir sur le milieu, vous avez raison, Il faut aussi que ce milieu soit gérable. Donc il faut réfléchir à la politique migratoire qui est aujourd'hui, ou l'absence de politique migratoire, qui est aujourd'hui en vigueur. Mais simplement, j'ajoute aussi que vous
mais
mettez
Saïd
en cause...
Mais Saïd est français, Saïd n'est pas immigré, donc je
ne oui, bien sûr,
pas pourquoi vous parlez de politique migratoire.
Il est fils d'immigré, il entre quand
comme
même.
Beaucoup d'entre nous.
Comme beaucoup d'entre nous.
Enfin,
vous savez bien qu'il y a immigration. Immigration, on ne peut quand même pas s'aveugler complètement. Mais surtout, vous dites, et vous semblez tomber d'accord, que les services publics ont failli.
Oui.
Et que c'est aussi là-dessus qu'il faudrait porter l'attention. Mais d'un autre côté, Paul Gastinier, je termine, vous parlez d'un centre social qui existait. Aussi pour des gens comme Saïd. Et vous dites que ce centre social redonnait foi en l'humanité.
Oui.
Mais donc,
ouais.
Des choses sont faites.
Bien sûr.
Et la rénovation urbaine, qui a coûté, comme dirait le président de la République, un pognon de dingue. Donc, tout ça, quand même, ça prouve que l'État ne se désintéresse pas de ce qu'on appelle les quartiers. Alors, que peut-on faire de plus ? Paul Gastinier.
Alors je précise que mon histoire se situe en plein centre-ville de Lyon. On n'est pas dans un quartier, comme on dit, dans une banlieue, ouais. comme on se l'imagine. On est sur le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, qui est un quartier historique au pied de l'hôtel de ville, donc vraiment dans le centre de Lyon. En tout cas, sur le recul des services publics, oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les gens que j'ai rencontrés. Le procureur, les magistrats, j'en ai rencontré plusieurs, les policiers qui ont enquêté sur cette collision, les avocats, les éducateurs sociaux, tous racontent quand même un recul des services publics. Et je suis allé au commissariat central de Lyon, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une zone rurale ou périurbaine, on est dans le commissariat central de la troisième ville de France.
C'est même un quartier chic.
C'est même un quartier chic, absolument, le premier arrondissement. Et on voit le mobilier complètement pourri, toutes les procédures qui s'accumulent sur les étagères, les policiers qui sont complètement dépassés. Il y a eu une enquête, un audit interne de la DGPN en 2022 qui montrait qu'il y avait 3 millions d'enquêtes de police judiciaire en attente d'être traitées et que si on suit cette trajectoire, on atteindrait 8 millions d'enquêtes en attente d'ici 2030. Donc c'est un Everest à franchir et cette saturation des procédures et ce manque d'effectifs et de moyens à la fois humains et financiers de la police crée ce sentiment d'impunité chez les délinquants. Et l'histoire de Saïd, elle raconte ça. C'est-à-dire que souvent, et les policiers me l'ont raconté, c'est-à-dire que souvent il a été attrapé par les policiers qui l'ont relâché parce qu'il avait moins de 100 grammes de drogue sur lui. Et voilà, on n'avait pas le temps de créer une procédure qui en plus s'est complexifiée, etc. Et quand les policiers n'ont pas les moyens d'enquêter comme ils devraient le faire, eh ben on crée des vices de procédure dans lesquelles s'engouffrent les avocats de la défense. Et forcément, le jeune délinquant s'en tire tout le temps. Mais c'est pas du laxisme, c'est aussi le symptôme du recul de l'État.
Du recul de l'État, mais...
C'est pas moi qui le dis, ce sont les policiers eux-mêmes.
C'est aussi la surabondance de ce genre de délit. Mais en même temps, vous citez un commissaire, le commissariat central, sur Saïd, parce qu'on bute sur Saïd. C'est pour ça que votre livre est absolument fascinant. Vous voulez comprendre, et c'est une entreprise très louable, très noble, et en même temps, vous butez sur quelque chose à chaque fois. Il avait la bêtise à fleur de peau. Il était vraiment beaucoup trop bête pour espérer quelque chose de sa vie. Même comme délinquant, il était beaucoup trop bête. Vous voyez, on se heurte à quelque chose avec Saïd, Paul Gastinier.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé de son milieu social, une fois qu'on a parlé des services publics qui n'ont pas eu l'impact sur sa vie qu'ils auraient dû avoir, on arrive quand même à cette impasse que j'ai essayé de résorber en assistant à son procès en 2024, duquel j'ai dû partir, c'est ses capacités personnelles. Intime. Pourquoi est-ce qu'il ne s'empêche jamais? Pourquoi est-ce qu'il retombe tout le temps? Pourquoi est-ce que son instinct de survie presque n'agit pas pour le sortir de sa dérive délinquante? Je n'ai pas la réponse.
Mais alors justement, il y a aussi, vous mettez en cause le rap, la culture du rap, parce que le rap...
On va se rejoindre là-dessus.
Je sais pas, oui, mais enfin, en tout cas, oui, le rap est masculiniste, le rap est homophobe, le rap célèbre le wheeling, etc. Et d'un autre côté, vous dites, c'est difficile de critiquer le rap. Et ça, je me tourne vers vous, Chantal Delsol. Oui, parce que critiquer le rap, c'est faire preuve, dit-on aujourd'hui, de mépris de classe, voire d'attitude discriminatoire, voire de racisme. Et le rap fait aujourd'hui partie de la culture. Je sais même pas si on va pas l'enseigner dans les lycées. En tout cas, aucun professeur aujourd'hui n'aura le courage de vous dire que Paul Jean Toulet, c'est quand même mieux que Médine ou Booba.
Alors, on peut apprécier les deux.
Est-ce que le relativisme, on peut apprécier les deux?
J'en suis la preuve.
Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Donc, est-ce que c'est pas aussi le relativisme culturel dans lequel nous vivons qui est en cause, Chantal Delsol?
Oui, mais en même temps, c'est une question d'époque. Les époques changent, et il est normal que les musiques changent. Moi, à la limite, ça ne me gêne pas. Ce qui me gênerait davantage, c'est de voir que de plus en plus, vous allez abandonner toute une population immense à, effectivement, à son rap, à son peu d'exigences scolaires, et vous allez fabriquer à côté, on va fabriquer à côté, nous tous, une toute petite élite superbe qui sortira des grandes écoles, et puis vous aurez un immense peuple analphabète qu'on va laisser à son rap. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur pour la France. Bon, cela dit, ce que je voulais vous dire à propos de ce que vous
êtes... Peuple analphabète abandonné à son rap?
Oui, enfin, à son rap ou à autre chose. Le rap qui est... Quand je dis le rap, parce qu'on vient d'en parler, mais ça peut être le manque d'exigence scolaire, le fait que maintenant, tous les gosses ont 16 ou 17 de notes. Et ça n'existe plus, les notes. On leur donne à tous 16 ou 17, vous voyez. On est toujours content d'eux. On n'exige plus rien. Donc, vous avez quelques bonnes écoles où certains enfants vont être chouchoutés, ils vont apprendre et vont devenir l'élite de demain, très différente du peuple immense qui est à côté et qui sera analphabète, qui est déjà analphabète. Moi, c'est ça qui me terrifie le plus, parce que je suis républicaine.
Et vous, pour finir?
Je n'ai pas autant de certitudes. Non, la raison pour laquelle j'ai parlé du rap, et je précise que j'en écoute énormément, je tiens à diluer ce malentendu, c'est qu'effectivement, je me suis interrogé sur d'où venait cette fascination pour le rodeo urbain, et je constate que le rodeo urbain est un leitmotiv des clips de rap aujourd'hui, et que c'est un comportement qui s'est imposé dans l'imaginaire du rap. Et sans doute, Saïd, qui écoutait énormément de rap, j'ai eu la liste des groupes par sa sœur qu'il écoutait, sans doute a-t-il été fasciné par cela, et que les comportements des délinquants reproduisent maladroitement, encore une fois, les choses vues. C'est tout ce que je dis.
C'est tout ce que vous dites, mais vous écoutez du rap et en même temps, vous ne faites pas de rodeo urbain.
Non, et je précise que c'est aussi un impensé de la gauche, le rap et les valeurs que certains artistes véhiculent, si j'ose dire.
Très bien. Merci de cette conclusion, Paul Gasnier. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La Collision. Il est publié chez Gallimard. Et autour des questions que nous avons abordées, Chantal Delsol, vous avez écrit Éloge de la singularité, essai sur la modernité tardive, aux éditions de La Table Ronde. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Mathieu Leroy. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Colcause. Mon invité sera Emmanuel Carrère. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.